Vous êtes sur RTL. Thomas Soto,
RTL Soir.
Elle publie Football, les beaux gestes chez Glénat, le foot au cœur de plusieurs actualités. Ces jours-ci, Nathalie Yanetta est l'invitée d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue Nathalie.
Bonsoir Thomas.
Est-ce que vous diriez, puisqu'il y a beaucoup de photos dans votre livre, que la photo symbolique des joueurs d'Istanbul et du PSG, genoux à terre hier soir au Parc des Princes pour dénoncer le racisme, est un beau geste pour reprendre le titre de votre livre?
Pour être honnête, elle aurait fait la couverture de ce livre,
ah ouais,
si elle avait eu lieu avant.
Mais on n'est pas dans le politiquement correct et ces emballements médiatiques dont notre époque elle se crée, en vrai?
Peut-être. Sauf que ça fait des années qu'on attend que les joueurs comprennent le rôle qu'ils ont à jouer, c'est-à-dire ceux de patrons.
Ouais.
Le pouvoir, c'est eux qui l'ont, les joueurs. Ce qu'ils ont fait mardi soir, et d'une certaine manière hier soir, c'est qu'ils ont exercé leur pouvoir. Le pouvoir, c'est de dire... Les règles sont les règles, nous ne jouerons pas si ces règles-là ne sont pas respectées, que ce soit les règles d'intégrité sur le terrain, mais aussi à l'extérieur du terrain.
Mais tous ces joueurs vont-ils renoncer, Nathalie, à aller à la Coupe du Monde au Qatar dans 2 ans, parce que les droits de l'homme et ceux des femmes sont bafoués en permanence là-bas, parce que le racisme contre les ouvriers étrangers, quasi-esclaves qu'ont construit les stades et quasi-quotidiens là-bas, si on part comme ça, où est-ce qu'on s'arrête?
Alors ça, c'est la vraie question. Et moi, je fais partie de ceux qui n'ont jamais souhaité que les sportifs soient pris en otage d'une quelconque
cause. C'est ça, est-ce qu'ils vont pas se retrouver prisonniers de...
Bien
ça,
sûr, c'est le risque. C'est un vrai risque. Là, ils ont fait un geste à la fois collectif, mais sur un moment individuel qu'ils ont considéré être intolérable. On ne peut pas leur demander non plus de porter la responsabilité de l'annulation d'une compétition qui est le rêve de leur vie et qui se déroulera dans un pays dont on peut penser ce qu'on veut par ailleurs, mais à qui on a accordé cette compétition, où les uns après les autres, personne n'a levé le petit doigt dans les instances pour dire si c'est ça, nous n'irons pas, et notamment les patrons de ces joueurs-là. Donc, ils ont un pouvoir qui est sur le terrain. Là, on va leur demander de prendre un pouvoir extra du terrain. Et là, ce serait injuste.
Donc, n'en faisons pas des politiques et ne mettons pas sur leurs
non,
épaules.
Non, mais c'est bien aussi
qu'ils
prennent la parole lorsqu'ils estiment ça juste. Et c'est récent. En tout cas, en France, c'est récent. Il y a un engagement qui est beaucoup plus important dans certains autres pays.
La Fédération française de foot a dénoncé des incidents inacceptables, pour revenir à ce qui s'est passé pour ce match entre PSG et Istanbul. Mais son président, Noël Le Graët, au mois de septembre, disait que le football n'était pas raciste. Alors il est déconnecté, il est à côté de la plaque, on se dit il y a deux mondes là, qu'est-ce qui se passe?
Il y a deux mondes, il y a deux générations.
Ouais.
On est en train de découvrir ça, il y a eu le MeToo chez les femmes, c'est un peu là, il y a le mi-temps pour les joueurs en fait. À un moment donné, ce qui était considéré par le modèle dominant, c'est-à-dire le modèle de l'homme blanc, est totalement secoué depuis quelques années. C'est le cas pour le combat des femmes, c'est le cas aussi pour une forme de différence, on va dire, raciale. Dans toutes les familles, je pense qu'il y a eu des débats autour de ce qui s'est passé et qu'on a tous dû entendre la même chose, c'est-à-dire, mais alors du coup, moi, si le monsieur qui est là devant moi, il est noir, qu'est-ce que j'ai le droit de dire ou pas dire? Tous les jeunes qui ont entre 18 et 20 ans ont expliqué de manière extrêmement raisonnée, bah non, en fait, tu ne le désignes pas pour la couleur de sa peau, mais pour son titre, pour son statut, pour ce que tu veux, mais pas pour la couleur de sa peau.
On est donc sur une époque qui change, avec des habitudes qui changent, une façon de regarder l'autre qui change, et la fédé de foot, elle est présidée par un monsieur qui s'appelle donc Noël Le Graët, qui a 79 ans, qui n'exclut toujours pas de se représenter pour un nouveau mandat l'an prochain. Est-ce qu'il doit passer la main, Noël Le Graët, aujourd'hui?
Là, vous me posez une question qui n'engage a priori que mon avis. Bien sûr que je pense que oui, mais il n'est pas le seul. Il y a un renouvellement de toutes les fédérations. En ce moment, on aurait peut-être imaginé que passer soit un certain âge, soit un certain nombre de mandats, les choses changent. Mais après tout, il y a une élection. Moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui veulent voter, s'ils ont besoin et s'ils ont envie de renouvellement, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont le bulletin de vote, qu'ils l'exercent.
Donc, jouer le jeu
la vérité, c'est que c'est pas Noël Le Graët le responsable. C'est ceux qui confortent ceux qui sont là depuis longtemps et qu'ils critiquent par ailleurs à côté, ou bien que ça arrange bien, parce que si Noël Le Graët ne s'en va pas, Noël Le Graët ou un autre président de fédération, eux aussi, ils vont conserver leur poste. Là, il y a de l'hypocrisie.
Alors, on va en venir au beau geste, votre livre. Il y a 3 parties dans le livre, technique, tactique, magique. Et à propos de magie, vous écrivez, je vais vous lire, on prête toutes les vertus au football, parfois trop d'ailleurs. Loin de lui accorder des pouvoirs magiques pour soigner nos sociétés de maux bien trop lourds à porter, il convient de lui rendre ce que Camus avait merveilleusement résumé dans cette superbe formule, ce que finalement je sais de la morale et des obligations des hommes, c'est au football que je le dois. Qu'est-ce qui vous touche tant dans le foot, dans ces beaux gestes?
C'est inexplicable. C'est comme une histoire d'amour et une histoire d'amitié. J'ai presque pas envie d'expliquer et de connaître la raison, parce que ça a dû être une rencontre émotionnelle, culturelle aussi, bien sûr. Je viens d'une famille où le football est très important.
Puis vous appelez Yann État quand même, hein, ça.
D'un pays aussi où le football est très important, l'Italie. Donc, j'ai pas d'explication et honnêtement, je veux pas le savoir.
Ouais.
Juste, j'ai toujours aimé ce sport, y compris dans les moments difficiles, et Dieu sait qu'on en a connu. Et on en connaîtra peut-être d'autres. Voilà, c'est un peu la Boétie et Montaigne. C'est parce que c'était le football et parce que c'était moi. Mmh. Voilà, c'est tout, il n'y a pas d'explication.
Vous dites aussi très joliquement que la technique est au footballeur ce que le solfège est à la musique, les palettes de couleurs aux peintres et les mots pour les écrivains. Il y a quand même quelques absents là-dedans.
Ouais.
Paolo Rossi, dont on a appris la disparition ce matin, n'est pas là. Maradona n'est pas là.
Non.
Comment ça
Cruyff
se fait ?
N'est pas là non plus,
Cruyff.
Alors que j'en parle beaucoup.
Pourquoi ?
Parce que c'est un peu ce qu'est devenu aussi... Le football aujourd'hui, c'est le sport le plus populaire qui a été confisqué par quelques-uns. C'est devenu un produit cher. Voilà. Donc, on ne peut pas regarder des matchs comme on veut en clair. On ne peut pas non plus faire un livre en achetant des droits qui sont devenus.
C'est trop cher d'acheter des photos en clair pour.
Ce livre, il coûte très cher. Jean-Paul Rousselet, qui m'a évidemment accompagné et tenu la main tout au long de la rédaction de ce livre et qui a une grande part dans le choix des photos. À un moment donné, on avait un budget, il a fallu qu'on fasse avec. Et c'est. Moi, je trouve ça.
C'est un peu désespérant quand même, non ? C'est un peu comme le foot. Téléfoot, la chaîne qui était en train de disparaître.
C'est
on ne sait plus regarder le foot.
On ne peut plus voir le football en clair. Et même quand on fait un livre de photos, on peut le faire, mais ça coûte extrêmement cher.
En revanche, il y a Griezmann, Antoine Griezmann. Qu'est-ce que vous pensez de son geste du jour, là, qui est son coup du sombrero ? Il casse un contrat de sponsoring avec Huawei. Oui.
Alors lui, il est en train de faire un hat-trick, en fait.
Le coup du chapeau.
Ouais, c'est-à-dire
le
hat-trick,
c'est les trois buts de suite. Ouais.
Voilà, parce qu'il a fait le premier, les violences policières contre le producteur de musique. C'est le premier à être sorti du bois et à avoir posté, pour les Français, j'entends, son indignation. Là, il vient de rompre un contrat extrêmement juteux, j'imagine, en tout cas, avec son sponsor principal. Donc maintenant, j'attends le
troisième.
Le troisième, le hat-trick. Il a beaucoup changé, Antoine Griezmann. Je pense que la crise sportive qu'il a traversée avec le Barça, parce que là ça va un peu mieux, puis en équipe de France ça va, a dû aussi peut-être lui permettre de réfléchir un peu sur ce qu'est aussi d'être footballeur et de représenter à ce point pour des jeunes ce sport si populaire.
C'est des jambes, des cœurs et un cerveau d'être footballeur. J'ai une dernière question. Pourquoi quand on regarde un match aujourd'hui et qu'on revoit des rencontres des années 60 ou 70 ou des photos des années 60 ou 70, on n'a pas l'impression de voir le même sport ?
Parce que c'est plus le même sport.
C'est plus le même sport ?
Non, c'est plus le même sport. Ils ont une condition physique qui n'était pas celle de Paolo Rossi, par exemple. Il est épais comme ça, il a pris des coups pendant toute sa carrière. Michel Platini, n'en parlons pas. Aujourd'hui, des physiques comme cela, ça existe de moins en moins, ça va beaucoup plus vite. C'est peut-être moins tactique, mais plus technique. Mmh. Et on a aussi changé, nous, les supporters, donc c'est plus le même sport. Mmh. Et c'est bien aussi, parce que regarder des films des années 70, c'est top, parce que c'est pas des films des années 2020.
Mmh. Y a qui tout en haut de votre panthéon footballistique ? Un seul joueur.
Unique ?
Ouais.
C'est dur parce que Maradona faisait partie celui-là, et puis dans mon cœur quand même, il y a Zidane.
Il y a Zidane quand même. Et puis Paolo Rossi, on va rappeler quand même, artisan de la victoire italienne en Coupe du Monde 82. 6 buts alors qu'il ne devait pas la jouer cette Coupe du Monde.
3 contre le Brésil de Socrates.
Italie-Brésil, voilà. C'est la 3e Coupe du Monde italienne. Il a marqué en finale, il a été ballon d'or cette année-là. Achetez ce livre.
Il était ce qu'on appelle en italien le meilleur buteur, c'est un de mes mots préférés en italien. Capocannoniere. Et ce soir, j'ai vraiment une immense pensée pour Paolo Maldini, mes 10 ans en Italie en 82, et toute l'équipe de la Juve.
Merci Nathalie Yanetta. Pour
Merci
ceux qui aiment le foot, ou plus simplement qui aiment les belles photos, achetez Offrez Football les beaux gestes, et donc signé Nathalie Yanetta. C'est publié chez Glénat, et celui-là, vous pouvez le mettre dans la hotte du Père Noël.
Merci
à
Thomas.
Vous. La culture de l'actu dans un instant. Julien Molcou voit la vie en jaune ce soir. Oh, c'est Cavrivière qui joue encore avec son... Non, c'est pas ce jaune-là. Non, c'est le jaune de la culture et de la musique.
RTL Soir.